La poursuite de l'aide d'urgence et un prêt garanti par l'État de 60 milliards de francs en 2025. Ce sont les principales annonces de François-Noël Buffet à l'ouverture de la conférence sur le PS2R. Le ministre chargé des Outre-mer qui est actuellement à Koné, il s'entretient d'ailleurs en ce moment avec Paul Néaoutine, le président de la province Nord. En métropole, l'immense tristesse des proches de Lina, le corps de l'adolescente a été découvert un an après sa disparition dans le Bas-Rhin. Le suspect, visiblement rongé par les remords, s'est suicidé en juillet dernier. L'Italie envoie des migrants en Albanie. Le premier bateau de la marine nationale italienne avec des migrants à bord est arrivé hier soir pour nous de l'autre côté de la mer Adriatique. Et puis dans la page sport, tout à l'heure en compagnie de Léo Fichou, on parlera de tennis mais aussi de football. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité ce midi, un coup d'œil au jeudi de l'économie Radio Rythme Bleu qu'on va retrouver en fin de ce journal. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Nicolas.
Et vous le consacrez cette semaine à l'événement Sotex So Good.
Oui, l'événement Sotex So Good Outre-mer French Tech D2 qui s'est ouvert hier à Nouméa. Nous en parlerons avec plusieurs invités. Atem Belagi, le président de la French Tech Nouvelle-Calédonie. De Stéphane Barbeau-Mer, qui est le directeur des contenus de Viva Technologies. De Florent Montrouge, le président de la French Tech La Réunion. Et de Grégory Tapero, un entrepreneur calédonien qui gère une start-up. Alors, quel rôle peuvent jouer ces écosystèmes de l'entrepreneuriat? Quelle coopération peut-on imaginer dans la région Pacifique? Et comment ces start-up peuvent-elles participer à l'avenir des territoires insulaires et ultramarins? C'est de ce dont nous parlerons avec nos invités pour ce jeudi de l'économie qui débutera juste après votre édition.
Et à la une ce midi, la visite ministérielle de François-Noël Buffet, le ministre chargé des Outre-mer, qui a participé ce matin à l'ouverture de la conférence sur le PS2R, le plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction au centre culturel Tchibaou. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a ouvert cette conférence en remerciant d'ailleurs à plusieurs reprises François-Noël Buffet d'être présent aujourd'hui. Louis Mapou a rappelé que la sauvegarde, la refondation et la reconstruction sont trois concepts qui traduisent la profondeur et l'intensité des questionnements qui agitent la Nouvelle-Calédonie alors que nous traversons, je cite, une passe particulièrement difficile. Et il a commencé par dresser un bilan de la situation sur le territoire.
La Nouvelle-Calédonie est gravement touchée, meurtrie et traverse une profonde souffrance. De nombreuses familles sont en deuil, tandis que de nombreux entrepreneurs ont vu leurs entreprises anéanties. De nombreuses personnes se retrouvent sans emploi. Certaines ont perdu leur logement. Et des zones entières sont affectées. De nombreux édifices religieux ont été détruits. La scolarité de nombreux enfants pour 2024 et 2025 est désormais perturbée et indiquait que beaucoup ont perdu espoir dans l'avenir choisissant de quitter la Nouvelle-Calédonie. L'insécurité continue de perturber la circulation ainsi que le bon fonctionnement des services publics, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'éducation.
Mais la Nouvelle-Calédonie doit rebondir et les Calédoniens se sont montrés impliqués dans la relance, selon Louis Mapou. La consultation publique est lancée en août a recueilli plus de 3000 participations, des suggestions, des questions et des propositions qui ont servi à alimenter le PS2R. Le gouvernement a l'ambition de créer une dynamique de travail nouvelle et durable, de répondre aux urgences et de tracer une trajectoire de 3 ans au terme de laquelle la Nouvelle-Calédonie devrait avoir rétabli ses comptes publics et sociaux. Louis Mapou qui explique qu'il faudra s'appuyer sur des valeurs fondamentales.
La bienveillance et la solidarité, car il faut subvenir aux besoins de la population dans ce contexte difficile et renforcer la cohésion sociale et le lien communautaire. La proximité de l'action publique, pour garantir une gestion transparente et efficace des affaires du pays, la complémentarité plutôt que la concurrence, notamment dans la gestion des affaires publiques, afin de maximiser les synergies et éviter les divisions. Enfin, l'éthique et l'intégrité dans la gouvernance, afin de restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions.
Et enfin, le président du gouvernement a proposé un plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction qui repose sur 4 grands piliers.
Le premier pilier interroge le concept même du vivre ensemble, qui doit être l'ambition première, centrale et collective. Le second pilier concerne notre modèle économique, qui souffre de plusieurs faiblesses structurelles qui l'empêchent de tirer pleinement parti de son potentiel. Le pilier social est le troisième, c'est le plus impérieux. Nous avons hérité d'un système de protection sociale généreux, mais désormais sous pression, incapable de répondre à toutes les demandes. Le quatrième pilier, enfin, concerne notre système de gouvernance. Celui-ci est aujourd'hui remis en question en raison de son coût de fonctionnement et de son efficience. Nous devons réfléchir à des solutions pour rendre nos institutions plus efficaces, plus réactives et plus proches des citoyens qu'elles sont censées servir.
Louis Mapou a terminé son propos en expliquant que le travail à accomplir est immense, mais c'est un défi que personne d'autre que le gouvernement actuel ne peut relever. Ce sont ses mots. La parole a ensuite été donnée au ministre des Outre-mer, un discours d'une petite vingtaine de minutes durant lequel François-Noël Buffet a tenu d'abord à avoir une pensée pour les habitants qui ont pu être, je cite, victimes de blocages, qui n'ont pas pu travailler, se ravitailler, se soigner ou tout simplement accompagner leurs enfants à l'école, et surtout à ceux qui ont tout perdu. Le ministre a rappelé les propos du Premier ministre et les mesures déjà mises en place par le gouvernement.
Cette nouvelle période doit être, et je cite les propos qu'il a tenus devant le Parlement, consacrée à la reconstruction économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie, à la recherche d'un consensus politique sur son avenir institutionnel. Il a également annoncé la mise en place d'une délégation interministérielle afin de garantir une gestion dans la durée de l'ensemble des enjeux calédoniens. La solidarité nationale a joué et continuera de jouer pour la Nouvelle-Calédonie. Depuis le début de la crise, en mai dernier, et jusqu'au mois de septembre, ce sont 400 millions d'euros, soit près de 50 milliards de francs pacifiques, qui ont été mobilisés par le gouvernement pour vous soutenir. Ça représente 13% du produit intérieur brut calédonien sur la dite période.
François-Noël Buffet a salué l'engagement et le travail du haut-commissaire Louis Lefranc et de ses équipes pour que le calme revienne sur le territoire. Le début d'un rebond s'esquisse, mais tout n'est pas réglé pour autant, précise le ministre chargé des Outre-mer.
Le soutien de l'État est donc amené à se poursuivre. À très court terme, le gouvernement a d'ores et déjà prévu de poursuivre le cofinancement du chômage partiel pour les mois de septembre et octobre pour un montant estimé à un peu plus de 23 millions d'euros, soit 2,8 milliards de francs pacifiques. De prolonger sur le mois d'août le fonds de solidarité des entreprises pour un montant estimé à 20 millions d'euros, soit un peu plus de 2,4 milliards de francs pacifiques. Le décret vient d'ailleurs de paraître dimanche dernier. De mettre en place le dispositif de financement de la reconstruction des écoles et des édifices endommagés ou détruits. Je signerai dans les heures qui viennent la circulaire adressé au haut-commissaire qui sera chargé de l'évaluation de ces dommages, puis de mettre en œuvre cette aide à la reconstruction.
Et enfin, au-delà de ces actions à très court terme et pour répondre aux enjeux de redressement, François-Noël Buffet a annoncé une garantie de l'État. Il a aussi expliqué que le gouvernement doit définir les modalités d'un soutien efficace.
Une garantie de l'État d'un montant de 500 millions d'euros inscrite en loi de finances pour 2025 qui permettra à l'AFD d'accorder un prêt du même montant. Chaque franc pacifique dépensé dans les dispositifs de soutien de l'État, comme dans les dispositifs locaux de reconstruction et de redressement, devront être utilisés naturellement à bon escient. C'est l'efficacité qui sera le critère, et l'efficacité de la réalité de leur usage et donc de l'exécution des projets qui seront financés.
Le ministre des Outre-mer a rappelé que le gouvernement resterait aux côtés des Calédoniens à la suite des événements récents dramatiques. Ce sont ces mots qui frappent la Nouvelle-Calédonie depuis le mois de mai. En début de cette semaine, déjà, le gouvernement avait sollicité les responsables institutionnels pour avoir leur avis sur ce plan PS2R. Un délai un peu court pour faire un retour complet, estime la présidente de la province sud. Mais dans un courrier au président du gouvernement, Louis Mapou, Sonia Baquès formule plusieurs observations, Elisabeth Noir.
Sonia Baquès tient d'abord à saluer cette initiative salutaire pour la Nouvelle-Calédonie, dans la situation extrêmement difficile qu'elle traverse, et afin de relever les défis économiques et sociaux qui se présentent. Elle estime ensuite que certaines des pistes de réforme de la fiscalité, notamment, vont dans la bonne direction, mais que d'autres font peser sur les contribuables déjà sollicités une charge trop lourde. Et elle souhaite apporter quelques remarques pour renforcer, dit-elle, l'efficacité et la pertinence de ce plan, en espérant qu'il sera appuyé financièrement par l'État. La présidente de la province sud relève par ailleurs que certains fondements de ce plan relèvent plus de considérations politiques que d'une évaluation neutre de la situation. C'est particulièrement vrai, écrit-elle, en ce qui concerne les critiques formulées à l'égard de la société calédonienne, qualifiée d'assimilationniste et accusée de ne pas accorder la place qu'il mérite aux Kanaks. Je ne souscris pas à l'analyse que vous présentez, qui consiste à lier les troubles que nous avons connus avec une prétendue marginalisation de la coutume et de la société kanak, ajoute Sonia Baquès. La présidente de la province sud émet par ailleurs d'importantes réserves sur la proposition de désindexation, sur la création d'une société unique de portage des parts calédoniennes dans la filière nickel, ou encore sur le fait que le PS2R veuille traiter de la répartition des compétences. Pour elle, ce sujet doit être abordé dans le cadre plus large d'un accord politique global avec l'État. Il ne saurait être intégré à des mesures d'urgence ou de refondation économique, écrit la présidente de la province Sud.
Le ministre chargé des Outre-mer a donc commencé sa journée par l'ouverture de la conférence sur le PS2R avant de s'envoler pour Koné. Un déplacement en province Nord que vous suivez, Michael Juneski.
Oui, absolument. Un entretien débuté avec Paul Néotin, le président de la province Nord, peu après 10 heures ici à l'hôtel de la province Nord à Koné. Le ministre des Outre-mer qui a reçu un accueil très chaleureux de la part du président de l'institution. Ce dernier a répété à plusieurs reprises lors de la coutume de bonjour, vous êtes le bienvenu, et d'ajouter notamment « Je n'ai rien dans la main, c'est pour dire bienvenue. Si j'avais quelque chose dans la main, j'aurais la main derrière le dos, mais ce n'est pas le cas. C'est signe de bienvenue. » Et d'ajouter « Nous sommes volontaristes ici en province Nord. Il y a peut-être aujourd'hui, face à la situation, des explications à se dire. Nous sommes restés dans la ligne des accords. S'il faut ouvrir de nouvelles perspectives, ce sera comme par le passé, en discutant. » Ce n'est pas facile, mais c'est en discutant, voilà, en quelques mots, l'une des déclarations du président de la province Nord, Paul Néotin, lors de la coutume de bonjour. Le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, a pour sa part répondu avec solennité et émotion, rappelant notamment la situation très difficile que vit actuellement la Nouvelle-Calédonie. François-Noël Buffet a pour sa part notamment déclaré « Ma démarche est inscrite dans cette tradition de respect » en faisant mention à la coutume. François-Noël Buffet qui a notamment offert de la soirée lyonnaise à nouveau comme symbole au président de la province Nord, une ville de Lyon que connaît d'ailleurs bien Paul Néotin, ce qui a occasionné quelques rires entre les deux hommes. Ils sont ensuite entrés pour cet entretien qui se poursuit en ce moment même à huis clos ici à l'hôtel de la province Nord. Notez que le député de la deuxième circonscription, Emmanuel Tchibaou, était présent pour cette coutume de bonjour, mais il ne participe pas à l'entretien entre Paul Néotin et le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet. Depuis Koné, en direct de l'hôtel de la province Nord, Michael Juneski, RRB.
Merci Michael. Et pour la suite du programme, quand il sera de retour à Nouméa cet après-midi, François-Noël Buffet visitera Aducos, l'entreprise Soprotec qui a été sinistrée pendant les émeutes. Et puis il clôturera ensuite l'événement Outre-mer French Tech au Château Royal avant de dîner avec les représentants du monde économique. Et puis enfin, en bref, vous le savez, François-Noël Buffet est venu aussi expliquer la raison de la volonté du Premier ministre Michel Barnier de ne pas organiser les élections provinciales avant le 15 décembre, comme c'était initialement prévu. Et bien notez que la Commission des lois du Sénat a adopté la proposition de loi organique reportant les provinciales jusqu'au 30 novembre 2025. Le texte sera présenté en séance publique du Sénat le 23 octobre, avant de passer ensuite à l'Assemblée nationale.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à la question d'hier, tout d'abord, 67% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent attendre d'abord de la visite de François-Noël Buffet des réponses dans le domaine économique. Ils sont 33% à attendre d'abord du ministre des Outre-mer des réponses dans le domaine politique. Notre question aujourd'hui, alors que l'événement So Tech So Good se déroule actuellement à Nouméa, pensez-vous que les start-up du territoire ont un rôle à jouer dans la refondation de l'économie calédonienne? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 11h44. Je vous rappelle qu'on va reparler des start-up tout à l'heure. Ce sera dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Avant ça, la suite du journal et après la pub, ce sera la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Kappa, termites, rats, poussez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
Votre restaurant La Braise vous accueille du mardi au samedi au 7 route de Lens-Vata. Spécialiste dans la cuisson au feu de bois et à la braise, venez partager un moment dans une ambiance chaleureuse et familiale avec un espace dédié aux enfants. La Braise, votre restaurant de viande à Nouméa. Réservez vite au 450-850.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Et les maires ont donc le sentiment que l'État est à leur côté. C'est ce que déclarait hier soir Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires, à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Outre-mer. François-Noël Buffet s'est entretenu avec les présidents des deux associations de maires, Pascal Vittori et Florentin Dédane, mais aussi avec le maire du Mont-d'Or, Eddy Lecourieux, le maire de Païta, Marilyn D'Arcangelo, Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire de Nouméa, qui représentait Sonia Lagarde, et Gérard Piollet, qui représentait le maire de Dimbéa, Johan Lecourieux. Et ce matin, c'est Pascal Vittori, le maire de Bouloupari et président de l'Association française des maires, qui était notre invité à 7h30, Elisabeth Noir.
Et cette réunion, apparemment, s'est très bien passée, une réunion au cours de laquelle le ministre des Outre-mer a fait plusieurs annonces significatives, et notamment la prise en charge par l'État à 100% de la reconstruction des écoles. Une très bonne surprise pour les maires, nous a dit ce matin Pascal Vittori.
On s'y attendait pas du tout parce que l'État ne finance pas les investissements à cette hauteur-là d'habitude. Le maximum de financement autorisé par l'État, c'est 80%. Donc on voit bien que ce sont des mesures totalement exceptionnelles destinées à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie.
Quelles sont les communes qui sont concernées par cette reconstruction d'écoles? C'est surtout Nouméa dans lesquelles il y a eu des dégâts?
C'est surtout Nouméa, un petit peu Dimbéa, un petit peu Païta également, mais le gros des écoles détruites se trouve sur Nouméa. Et donc c'est important, hein. On peut avoir une rentrée là au mois de février. Il faut absolument que les enfants puissent reprendre leur scolarité normalement. Et donc, on est très heureux que les communes de l'agglo puissent bénéficier de cette aide.
L'État va donc prendre en charge à 100% la reconstruction des écoles. François-Noël Buffet a également annoncé la prise en charge à 70% pour les autres bâtiments publics qui ont été détruits lors des émeutes. Et puis, autre revendication satisfaite pour les maires, le report des échéances pour les appels à projets. Les explications de Pascal Vittori.
Alors, ce sont des aides à l'investissement hein, que l'État attribue aux communes. Précédemment, on appelait ça les contrats de développement. Donc, il y avait une partie État, une partie province et une partie commune. Et un certain nombre de communes, à cause des événements, n'ont pas pu réaliser leurs investissements en 2024. Et donc, elles vont pouvoir bénéficier d'une année de report jusqu'en 2025 pour pouvoir réaliser ces investissements.
Ça va permettre de refonctionner, de relancer un petit peu la machine dans les différentes communes.
Ah bah c'est très important puisque les communes font partie, au niveau institutionnel, des plus gros investisseurs. Et donc c'est primordial pour pouvoir soutenir nos entreprises et préserver l'emploi dans nos communes.
Et les maires attendent encore une réponse concernant la prise en charge des budgets de fonctionnement qu'ils ont également demandé. Et ils sont plutôt optimistes sur la réponse de l'État. Ils ont enfin obtenu un point important pour eux, que les aides de l'État soient versées directement aux communes.
La répartition en Nouvelle-Calédonie, c'est celle-là, c'est-à-dire que les recettes fiscales arrivent au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui reverse ensuite aux provinces et aux communes. Et la difficulté qu'on a eue depuis le mois de mars, c'est que par exemple sur les centimes additionnels, c'est une partie des recettes fiscales qui reviennent normalement aux communes, eh bien ces recettes n'ont pas été versées depuis le mois de mars. Et pour certaines communes, la commune du Mont-d'Or, ça représente par exemple 400 millions. Donc ce sont des sommes énormes qui ont été gardées par le gouvernement et qui n'ont pas été versées aux communes. Et donc le fait que ces recettes n'aient pas été versées, ça a mis les communes en difficulté.
Et là, ça veut dire que les aides, notamment pour par exemple reconstruction des écoles, l'État va les verser directement à chacune des communes?
Exactement, par le biais de conventions. Et donc dans ces conventions, il sera spécifié la destination finale de ces recettes.
Les maires estiment à quelques 4 milliards CFP la perte globale qu'ils ont subie du fait des émeutes. Ils ne savent pas encore ce que l'État attribuera précisément, mais d'ores et déjà, ils se disent très satisfaits. Et le président de l'Association française des maires parle d'un véritable sauvetage de la part de l'État. Une interview à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Alors, on parlait en début de ce journal de la relance de l'économie calédonienne. Le directeur outre-mer de Business France, Johan Remeau, est actuellement sur le territoire pour aider les entreprises à conquérir de nouveaux marchés. Il est présent pour le premier comité de pilotage du team France Export en Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour aller à la rencontre du tissu économique local. Son rôle, c'est d'accompagner les entreprises calédoniennes qui souhaitent exporter. Écoutez Johan Remeau.
Il y a effectivement beaucoup à faire, hein, que ce soit dans l'innovation, mais aussi sur d'autres secteurs. On voit que la crise a finalement été un accélérateur, puisqu'on avait des entreprises qui travaillaient sur ce marché local sans forcément se poser la question de l'international. Et on a vu finalement une convergence assez forte et de nombreuses demandes et sollicitations qu'on n'imaginait pas d'entreprises qui ont envie de se projeter, qui veulent aller chercher des marchés à l'étranger. Donc il y a toujours un petit côté positif dans les crises, en tout cas, si ça peut amener ces entreprises effectivement à s'inscrire dans la durée, dans une dynamique internationale. Voilà, on sera là à leur côté pour les accompagner, essayer de faciliter cette démarche qui n'est pas forcément toujours très facile.
Et en partenariat avec la CCI et le cluster NCTI, une trentaine d'entreprises calédoniennes a déjà été accompagnée sur différentes actions pour aller sur le terrain de l'export. La team France Export de Nouvelle-Calédonie peut permettre de soutenir les entrepreneurs locaux dans cette aventure. On retrouve Johan Remeau, le directeur outre-mer de Business France.
Les leviers existent déjà, mais effectivement, ma présence est aussi pour les mettre un peu plus en exergue. Des leviers à la fois dans l'accompagnement technique, mais aussi sur du financier. Prospecter, ça coûte assez cher. Et on a des outils à la fois de soutien technique et financier, notamment par le biais d'un partenariat avec le ministère des Outre-mer, qui est à nos côtés depuis 15 ans sur l'ensemble des Outre-mer, et depuis un peu plus d'un an maintenant sur le Pacifique, à travers ce partenariat. Cette question de l'international était vraiment enfouie sous les dossiers. On voit qu'aujourd'hui, avec l'émergence de ces structures autour des French Tech et l'innovation, que l'international, petit à petit, vient sur le dessus de la pile. Et voilà, on peut espérer que cette stratégie d'internationalisation sera totalement ancrée dès le début dans les business plans des prochaines entreprises qui émergeront en Nouvelle-Calédonie et ailleurs sur les Outre-mer.
Joan Romo, le directeur Outre-mer de Business France, qui sera présent en Nouvelle-Calédonie jusqu'à dimanche. En bref, enfin, une coupure d'électricité signalée à 10h12 à Ducos. Dans la rue Nobel, un camion a heurté un poteau électrique. Les câbles aériens se sont retrouvés au sol, ce qui a impacté 1790 clients d'EEC. Il restera actuellement 70 foyers encore impactés par la panne de courant. Il est 11h51, on marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité en métropole. Elle était portée disparue depuis plus d'un an. Le corps de Lina a été découvert ce matin pour nous.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Saviez-vous qu'il faut adapter la taille de votre réfrigérateur à vos besoins et à votre famille? La consommation d'électricité augmente avec le volume de l'appareil. Et si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le débrancher en le laissant la porte entrouverte.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag, on retrouve Nicolas Legrand.
Et le corps de la jeune Lina a été découvert dans la Nièvre. L'adolescente de 15 ans a été portée disparue depuis septembre 2023. C'est finalement à 500 km du lieu de son enlèvement présumé qu'elle a été retrouvée dans une zone boisée en contrebas d'un talus dans un ruisseau. Les premières analyses confirment qu'il s'agit bien du corps de l'adolescente. Le véhicule du principal suspect, qui s'est donné la mort en juillet dernier, avait d'ailleurs été géolocalisé à cet endroit en septembre 2023. La famille de Lina indique dans un communiqué qu'elle ne souhaite pas réagir pour le moment et a fait part de son immense douleur. Denis Thuriot, le maire de Nevers, à proximité de la zone de la découverte, estime qu'il faut que maintenant l'enquête retrace le parcours du suspect pour apporter des réponses.
Il faut que l'enquête se fasse et encore une fois, Nevers, c'est peut-être un hasard, il y a peut-être une raison de cette proximité, personne ne le sait aujourd'hui. Je crois savoir, mais ça a été révélé publiquement, qu'il y avait eu un bornage ou quelque chose qui était passé dans la Nièvre. Maintenant, c'est vrai qu'on n'était pas spécialement concerné par, malheureusement, cette suite dramatique.
Des expertises médico-légales seront menées dans les prochaines heures pour déterminer les causes de la mort de l'adolescente de 15 ans. Les proches de Philippine, eux, doivent prendre leur mal en patience. Le principal suspect dans le meurtre de la jeune femme de 19 ans à Paris le mois dernier refuse son extradition vers la France. Je rappelle qu'il a été arrêté en Suisse quelques jours après le drame. Mais alors, qu'est-ce que ça change concrètement, Jean-Baptiste Marie ?
Eh bien, d'abord et avant tout, la longueur de la procédure, car les délais d'extradition vont être rallongés. Avec ce refus, on passe de quelques semaines, si Tao, le suspect présumé, avait accepté, à environ une année. Cela s'explique par le transfert de compétences entre autorités judiciaires suisses, comme l'explique maître Philippe Fontana, avocat au barreau de Paris.
C'est à l'Office fédéral de la justice suisse de se prononcer dorénavant sur le bien fondé de la demande française d'extradition.
Cette nouvelle instance judiciaire suisse doit désormais se prononcer sur la forme et non plus sur le fond, c'est-à-dire plus besoin de prouver que le viol a bien été commis, mais même après cela, si l'extradition est validée, il sera encore possible pour le ressortissant marocain de faire de nouveau appel, maître Philippe Fontana.
La personne mise en cause peut interjeter appel devant le tribunal pénal fédéral suisse et exceptionnellement devant le tribunal fédéral.
Des procédures qui peuvent donc prendre au moins un an. En attendant, le suspect reste en détention provisoire en Suisse.
Jean-Baptiste Marty pour Europe 1. En bref, la commission des finances de l'Assemblée nationale demande officiellement le pouvoir d'enquêter sur la dérive du déficit public. Le projet de loi de finances est actuellement examiné en commission à l'Assemblée nationale, un texte qui divise à tel point que près de 2000 amendements ont été déposés. J'ajoute que quelques jours après le gouvernement, puis le nouveau Front populaire, c'est au tour du Rassemblement national de dévoiler à son tour ses projets budgétaires. L'actualité internationale maintenant est l'Italie qui a décidé d'envoyer certains demandeurs d'asile en Albanie. Un accord avait été trouvé entre les deux pays l'année dernière et le premier bateau de migrants est arrivé hier soir pour nous, Caroline Baudry.
À 8 heures, l'imposant patrouilleur italien, le Libra, est entré dans le petit port de Shengjin, prisé des pêcheurs. C'est amarré tout près des chalutiers. 16 hommes, escortés par les autorités, ont débarqué dans un centre à même le quai où ils ont été enregistrés, puis soumis à un examen médical. De nombreux médias albanais, mais aussi italiens, étaient présents. Et quelques heures après le départ du patrouilleur, ces hommes ont été emmenés dans un deuxième centre à 30 minutes de route dans l'arrière-pays où des préfabriqués entourés de hautes barrières métalliques sont sortis de terre au milieu d'un village presque déserté en creux d'une vallée rocailleuse. 300 militaires, juges et médecins italiens sont mobilisés sur le site. 12 mètres carrés par candidat à l'immigration dont la demande d'asile sera traitée à distance via écran géant par l'administration italienne qui se donne 28 jours pour trancher, accepter la demande ou renvoyer le migrant dans son pays d'origine, qui sera alors placé en attendant son rapatriement dans une zone du camp qu'il aurait réservée.
Caroline Baudry pour Europe 1. Et enfin, en bref, on a appris le décès de Liam Payne. Il était chanteur dans le boys band One Direction, qui a connu un franc succès, même planétaire, entre 2010 et 2016. Il est mort à l'âge de 31 ans en Argentine, après avoir chuté du troisième étage d'un hôtel. Une enquête a été ouverte. Il est 11h passé de 57 minutes. On marque une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Jusqu'au vendredi 18 octobre, gagnez un séjour au Sheraton des Vins. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs. Logez 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes. Envoyez chance au 3146. Tirage au sort vendredi 18 octobre à 14h, 148 francs le SMS. Profitez des vacances scolaires pour vous détendre au Sheraton des Vins. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Toutes les infos et actus sur les pages Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, première radio d'information.
La suite de votre journal avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Allez, on termine ce journal avec le sport. On commence par le tennis, Léo Fichou, pour vous dire que Maxime Chazal s'est qualifié pour le deuxième tour du Challenger de Saint-Brieuc.
Et oui, il s'est qualifié en double, puisqu'il a malheureusement perdu mardi soir au premier tour en simple. Le Calédonien est associé au Syrien Azem Nao, et hier soir, ils se sont imposés en 2-7, 6-2, 6-3 face à un autre Français, Robin Bertrand, qui lui est associé au Croate Novimir Babic. Ce soir à 19h, Maxime Chazal et son coéquipier seront donc opposés aux frères jumeaux Sabanov, les Serbes, qui sont les têtes de série numéro 1 du tournoi.
Et puis du football avec la suite du trophée du Grand Nouméa ce soir au Parc des Sports de Coutio.
À 18h d'abord, le Mondor sera opposé à Dumbéa, puis à 19h45 c'est Magenta qui jouera contre Gaïcha en lieu et place de la rencontre entre Tigaspor et Lossi, puisque Lossi est forfait. C'est leur deuxième forfait d'ailleurs depuis le début de la compétition. Ils devaient déjà jouer mardi soir mais n'ont pas joué du coup. Mardi, il n'y a eu qu'un seul match. Gaïcha s'est imposé 7 buts à 5 sur Melek grâce notamment à 5 passes décisives de Mickaël Ulilé, le gardien d'habitude de Magenta, qui est venu dépanner ses copains de l'SCG.